panorama économique.
Très heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de la rétrospective de l'actualité économique, de l'actualité économique sur Radio Okapi. Messieurs, dames, bienvenue. Voici les titres. La RDC a célébré en sa manière mardi la journée mondiale de la Poste. La Poste congolaise a placé cette journée sous le thème innovation, inclusion et intégration. Le directeur général de la Poste congolaise, vous allez l'entendre, a à l'occasion inauguré l'agence postale de Lemba ici à Kinshasa. La ville de Goma dans le Nord Kivu a servi de cadre cette semaine à la réunion des experts des pays membres du corridor central. Cette réunion qui se clôture aujourd'hui, samedi, a commencé lundi. Il faut dire qu'il examine les projets prioritaires à financer dans le cadre de l'interconnexion des voies de transport dans la sous-région. Et nous allons revenir aussi sur cette grève des commerçants de la ville de Beni, une grève de près d'une semaine. Ils voulaient, ces commerçants, contester l'arrestation d'un des leurs accusé d'être en connivence avec les présumés rebelles de l'ADF. Cette action a occasionné un manque à gagner aussi bien pour l'État que pour la population. Voilà pour les titres. Je suis Daniel Tambizoni devant ce micro. À la prise de son du Denis Yangassa, je vous souhaite encore une fois la bienvenue à Panorama Économique sur Radio Okapi.
Panorama Économique, le dossier.
Ouvrons notre dossier de la semaine par cette célébration mardi à Kinshasa par la Société congolaise de postes et télécommunications. La STP a célébré la journée mondiale de la poste prévue le 9 octobre de chaque année. Cette célébration a coïncidé à Kinshasa avec l'inauguration de l'agence postale dans la commune de Lemba. La poste congolaise a placé cette journée sous le thème « Innovation ». Inclusion et intégration. Le directeur général de la STP, Didier Moussété, explique ici comment la RDC compte-t-elle matérialiser ce thème. On l'écoute.
Innovation, car les postes performants ont bénéficié ou ont profité des défis et de la concurrence induits par le développement des technologies modernes de l'information pour innover et créer de nouveaux segments de marché. Après avoir compris qu'un moyen de communication plus rapide et efficace est ce dont la poste a besoin pour constituer une nouvelle chaîne de valeur commerciale et répondre aux nouvelles exigences des clients. Intégration, car pour affronter ces nouveaux défis, la Poste va devoir embrasser de nouvelles technologies et transférer son capital confiance dans l'espace numérique en développant de nouvelles compétences. L'intégration complète sera possible en intégrant les réseaux de la Poste dans un ensemble homogène, connecté virtuellement et physiquement, avec la participation de tous les grands acteurs de la chaîne logistique, à savoir la douane, le transport, commerce électronique, ainsi de suite. Et enfin, inclusion, car avec les nouveaux objectifs des Nations Unies pour le développement durable, la Poste est aujourd'hui appelée à jouer un rôle encore plus important en tant qu'infrastructure de développement.
Le vice-premier ministre, ministre en charge de postes, téléphones et nouvelles technologies de la communication, a encouragé la population à recourir aux services de la Poste. On écoute Thomas Louaka.
L'État congolais, actionnaire unique dans la Société congolaise des postes et télécommunications, a appuyé cette dernière au travers de plusieurs actions stratégiques, parmi lesquelles nous pouvons citer l'incorporation de certaines créances lourdes au capital social de l'entreprise, la promulgation de la loi dite 2 kilos, qui reconnaît à la Poste les monopoles du transport des colis et lettres des tranches inférieure à ce point, le soutien à la nouvelle convention collective, le rétablissement de la SEPT dans ses droits fonciers et cadastraux. La célébration de ces jours ne prendra réellement son sens que dans l'utilisation régulière et répétée des services de la Poste. Je vous invite donc à ouvrir des boîtes postales pour vous-même ou pour vos entreprises, ouvrir des comptes à Poste Finance, envoyer et recevoir des colis et courriers, tant ici à Lemba, dont le bureau de poste vient d'être rénové, que partout en République démocratique du Congo. Au personnel de la Poste en général, et ceux commis au service de la Poste Finance en particulier, je recommande un sens aigu des responsabilités et un professionnalisme sans égard.
C'est un dossier réalisé pour nous cette semaine par Nadine Foula. De la guerre identitaire au pillage de mines d'or de Kilomoto par les multinationales anglo-américaines, c'est l'intitulé du livre paru aux éditions Scribe Bruxelles 2016. Cet ouvrage, œuvre réalisée par le journaliste d'investigation basé à Beni, Nikes Kibel-Bel-Oka, nous l'avions reçu en invité cette semaine dans Écho d'économie, c'était lundi. Suivez plutôt Nikes Kibel dans cet entretien avec Gisèle Cage.
Nikes Kibel-Bel-Oka, pourquoi d'abord le choix de ce titre ?
L'Ituri, spécialement, a été déchiré par un conflit identitaire qui a opposé au simple les Lendu Hema. Et ce conflit, comme toute guerre, a des aspects économiques.
Bon, juste expliquer un peu à nos auditeurs ce qui s'est réellement passé en Ituri.
En un mot, je peux résumer en ceci. La loi Bakajika, qui dit que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État, mais dans son aspect de l'inattaquabilité des concessions, c'est-à-dire qu'après 2 ans, lorsque vous ne vous êtes pas plaint, le dossier devient inattaquable. Cette loi a servi, effectivement, d'enflammer un conflit qui était latent. Il y a eu des gens lors de la zarialisation et puis après le passage de l'AFDL, notamment dans la communauté Hema, qui ont pu avoir des terres. Malheureusement, ces terres étaient habitées par des communautés locales Lendu. Ils devaient les déguerpir en fonction de la loi Bakajika, de l'inattaquabilité après 2 ans. Et c'est ça la goutte d'eau qui a débordé les vases.
Je vois, vous avez aussi évoqué le fait qu'il y a en tout cas de grandes sociétés, hein, de multinationales, qui sont venues s'implanter en Ituri, notamment pour exploiter de l'or, mais aux dépens aussi des populations locales, et que cette situation perdure jusqu'à aujourd'hui.
Au départ, l'Ituri est riche. Il est riche de l'or. Dans cette guerre économique, les belligérants avaient besoin d'appui, avaient besoin des armes. Ils se sont servis, je dirais mieux, les multinationales les ont piégés en leur offrant des armes. Et en retour, ils ont puisé dans le sol. Si bien que quand l'État est venu, l'État les a utilisés aussi pour sécuriser les sites. Mais dans l'entretemps, vous savez, le monde, c'est le monde des intérêts. Eux avaient déjà prospecté et avaient déjà commencé les exploitations. Mais je voudrais plus revenir sur un contrat. Kilomoto signe un contrat qu'on appelle ATAF, Assistance Technique Financière. Il donne un carré minier à Kibali. Kibali, en retour, construit une usine modulaire qui va traiter les déchets pour le compte de Kilomoto. Le contrat est signé au mois de septembre 2012. Mais 2 mois après, Kibali rachète cette partie-là et on détruit l'usine. Donc vous voyez un peu ce genre de contrat, comment finalement, parce que c'est un problème d'intelligence supérieure. Et nous, comme nous ne réfléchissons pas assez, parce que nous avons des problèmes de ventre, ceux qui devraient réfléchir pour le compte de la RDC, ils se retrouvent embobinés par les multinationales.
Vous dites aussi au Kimo livré au charognard.
Kilomoto a été livré au charognard parce que Kilomoto était propriétaire à 100% du sol et du sous-sol. Bon, bien, c'est l'État congolais. Mais aujourd'hui, Kilomoto est locataire. Donc pratiquement, on a dépecé Kilomoto et Kilomoto n'a rien gagné. Sur 3700 agents, ils sont restés impayés, je pense, si ma mémoire est bonne, pendant 3, 4, 5 ans. Où ils peuvent avoir plus de 30 mois de salaire impayé. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, le problème continue. Et charognard aussi, c'est quoi? Vous voyez, Kilomoto avait, par exemple, pour le cas de la centrale hydroélectrique. Kibali récupère la centrale hydroélectrique et donne à Kilomoto un groupe électrogène. Vous trouvez ça normal? Kilomoto a été livré au charognard à 3, 4, 5 niveaux. Premier niveau, Kibali Gold, quand il est venu comme Motogolf, il a engagé les géologues de Kilomoto, donc il a détruit Kilomoto, parce qu'il s'est servi des géologues de Kilomoto et des études menées par Kilomoto. Ça, c'est de un. De deux, il a racheté l'espace qu'il a racheté où il y avait même des habitations, des villas de Kilomoto, il a racheté, il a sorti tous les cadres de Kilomoto qui sont allés ailleurs. Et trois, l'église catholique qui était là devait être déplacée parce que l'or était sous l'église. Bon. 4, les orpailleurs artisanaux, on les a chassés. Parce que vous savez, dans les principes des minerais, qui découvre les minerais? C'est l'orpailleur artisanal, celui qui va découvrir. Et quand il découvre, lui qui a fait les efforts de dire ici il y a de l'or, c'est la multinationale qui vient après, il achète, il les chasse.
Qu'est-ce qui est le cas? Je vous dis merci.
Je remercie Radio Capi d'avoir pensé aussi à nous.
Et la réaction de Kibali Gold n'a pas tardé de se faire sentir suite à cette interview. Son directeur général Cyril Mutombo ne reconnaît pas le moindre instant l'implication de son entreprise dans les pillages soulevés par Nikes dans son ouvrage. Il a aussi fait allusion au conflit qui a opposé les Lendu Hema dans l'Ituri. Cyril Mutombo répondait comme ça aux questions de Gabriel Ouaméa.
Je veux préciser que le contrat dont il parle C'est un contrat qui a été bel et bien signé entre la société Kibali et l'entreprise Sokimo. Seulement, M. Nikkei ne le place pas dans le temps. Ce contrat a été signé en 2009 et non en 2012, comme il le prétend. Et d'autre part, ce contrat avait des objectifs très précis, dont la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Nzoro, l'exploration avec la découverte d'un gisement qui permettait à la Sokimo de redevenir encore un acteur important, et aussi la délocalisation de l'usine de traitement de rejet de l'unité modulaire d'Ouba. À ce jour, nous avons réalisé toutes les opérations contractuelles. Nous avons réhabilité la centrale de Nzoro. Nous avons fait le programme d'exploration qui a donné un gisement de plus d'un million d'or à la Sokimo. L'unité modulaire a été déplacée. Et aussi, les travailleurs dont il parle sont les travailleurs de la Sokimo. J'aimerais bien comprendre pourquoi M. Nikkei, qui sait très bien qu'un travailleur a, l'employeur a plutôt l'obligation contractuelle de payer le salaire de ses travailleurs.
Restons dans la même lancée. Nikkei parle de la centrale hydroélectrique que vous avez pris en échange d'un groupe électrogène pour une société sans moyens. Votre réaction?
Je suis heureux que vous me posiez cette question, M. Gabriel, puisque nous ne l'avons pas fait. M. Nikkei est lui-même à Douba. Nous avons par contre réhabilité la centrale hydroélectrique de Nzoro 1 qui à ce jour produit 1,2 MW d'électricité et cette électricité nous l'avons mise à la disposition de la Sokimo. Dourba, Ouata, à ma connaissance, c'est le seul ou l'un des rares endroits de la République où il n'y a pas de bel état. Et Kibali est allé au-delà, nous avons construit une autre centrale de Nzoro 2 et cela produit 22 MW d'électricité, et c'est la plus grande centrale si vous prenez l'ex-province orientale dans son ensemble.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance, reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Les autres informations de la semaine, nous commençons par le Nord Kivu. La réunion des experts du corridor central débutée lundi se clôture aujourd'hui samedi. Les experts examinent les projets prioritaires à financer dans le cadre de l'interconnexion des voies de communication, les transports. Il s'agit des experts du ministère des infrastructures et travaux publics ainsi que ceux du ministère des transports de la RDC, de l'Ouganda, du Burundi, du Rwanda et de la Tanzanie. Deux établissements de navigation sur le lac Kivu sont interdits de toute activité jusqu'à nouvel ordre. Nous sommes dans le sud Kivu. Le ministre provincial des Transports qui a pris cette mesure évoque le trouble de l'ordre public et autres incidents survenus en début de cette semaine. Les conséquences de cette situation commencent à se faire sentir. Elles passent par des manques à gagner importants enregistrés par les armateurs qui sont frappés de cette mesure. À Kinshasa et mercredi, les députés nationaux membres du réseau des parlementaires sur la lutte contre le paludisme ont plaidé pour la suppression des taxes à l'importation des intrants antipaludiques. Ils l'ont dit à la clôture d'un atelier de deux jours axé sur la problématique de lutte contre le paludisme. Cette déclaration est intervenue après des discussions avec les parlementaires membres des commissions socioculturelle de la Commission économique et financière du ministère de la Santé et de tous les services de taxation à la frontière. Au cours de leurs échanges, ces députés ont démontré qu'en dépit du fait que la RDC est le deuxième pays au monde frappé par le paludisme, les antipaludéens coûtent très cher au pays. L'arrestation d'un commerçant à Beni, je vous le disais dans le titre, a été le motif cette semaine d'un mécontentement généralisé pendant presque une semaine. Les commerçants ont voulu dire non à l'accusation faite à l'endroit d'un des leurs, accusation selon laquelle il serait de mèche avec le présumé rebelle ADF. Cette grève a fait enregistrer à la ville plusieurs pertes. C'est ce que nous dit ici Sekombi Katondolo.
C'est depuis le vendredi dernier que les commerçants de la ville de Beni ont entamé un mouvement de grève. Ces opérateurs économiques posent des préalables avant toute reprise des activités. Ils réclament la libération pure et simple de leurs collègues ou qu'ils soient simplement différés devant la justice. Ils exigent par la suite que les indices de prévention de collaboration avec les présumés rebelles des ADF pour lesquels cet opérateur économique est poursuivi soient véritablement établis. Cette situation paralyse déjà les activités commerciales dans la ville de Beni et entraîne du coup un manque à gagner pour l'État qui perçoit des taxes journalières chez le commerçant, affirme la société civile urbaine. Kizito Binhangi.
Pour l'État, il y a eu manque à gagner. Si l'État n'a pas récolté de l'argent par rapport aux différentes taxes, mais aussi par rapport à la population, il y a celle-là qui vit au taux du jour. Également, pour les commerçants, vous savez qu'il y a des produits périssables, par exemple des tomates, il y a aussi des yogourts, des jus. Il y a des produits qui ont été moisis à cause de ne pas être installés au niveau du marché.
Pour l'instant, la FEC Beni ne semble pas manifester la volonté de reprendre les activités avant que ce préalable soit pris en compte. Du côté des services de sécurité, le fait reproché à cet opérateur économique est grave. Beni, c'est Kombi Katondolo, Radio Okapi.
L'actualité sur le marché de change à présent. À Kinshasa, le pic le plus élevé était de 1200 francs congolais pour le dollar américain, tandis qu'en province, des voyageurs en provenance de Moba ont signalé le bon comportement du franc congolais par rapport à la devise américaine. Le taux de change à Moba était cette semaine à 1 dollar pour 1050 francs congolais, alors que dans la ville voisine de Kalemi, ce taux était de 1100 francs congolais pour 1 dollar américain. À cela, une explication, l'abondance de produits de pêche sur le marché, nous disait François-Xavier Mibé, notre reporter et correspondant de Radio Okapi à Kalemi. Terminons par Kinshasa, où une cinquantaine de magistrats recrutés et formés et qui devraient travailler à la Cour de comptes de la RDC attendent depuis 2013 leur nomination. Ils disent avoir été présentés à l'Assemblée nationale le 13 juin de l'année en cours et qu'en principe, le dossier transmis à la présidence, cette nomination par ordonnance présidentielle ne devait plus traîner. Dans un mémorandum qu'ils ont adressé mercredi à la présidence, les 51 magistrats sollicitent l'implication personnelle du chef de l'État pour que la Cour des comptes soit remise en ordre utile de servir. Leur représentant, Nathalie Simbumba, nous explique ce qui devrait être fait pour leur nomination.
La loi veut que, avant que nous puissions commencer le travail, nous soyons nommés par ordonnance présidentielle après avis de l'Assemblée nationale. Et dès lors que l'avis de l'Assemblée nationale a été déjà obtenu le 13 juin 2016 et que jusqu'à présent nous ne sommes pas encore nommés, nous avons pensé qu'il fallait venir auprès du chef de l'État, présenter notre demande, notre mémo, de sorte qu'ils puissent comprendre aussi que peut-être que le chef de l'État n'a pas encore les dossiers, peut-être que les dossiers traînent quelque part, et comme vous, la presse, vous êtes la voix par excellence, nous pensons que ce que nous sommes en train de demander pour notre nomination et prestation de serment peut être réalisé.
Vous dites que vous êtes un groupe de 51 magistrats. Comment vous en êtes arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes sorti de l'université, recruté? Ça s'est passé comment pour que vous en arriviez là?
Non, en fait, nous sommes des cadres des administrations et services publics de l'État qui, dans le cadre du programme d'appui à la bonne gouvernance, on s'est rendu compte que la Cour des comptes ne fonctionnait pas correctement et qu'il y avait trois piliers de réforme à faire. Premièrement, c'est le recrutement des 60 magistrats. Et deuxièmement, c'est la réhabilitation des bâtiments et construction des bâtiments de la Cour des comptes. Et troisième aspect, c'était la révision de la loi de la Cour des comptes. Et le bâtiment, nous l'avons déjà obtenu. Et nous sommes bien logés, je dirais bien. Donc, nous avons des très beaux bureaux. Mais la nomination des 51 magistrats qui devaient avoir lieu depuis 2013 tardent encore à venir. On ne sait pourquoi, raison pour laquelle nous voulons lever notre voix auprès du chef de l'État pour que lui, étant que garant de la nation, puisse nous aider à être nommé, parce qu'en réalité, ça fait plus de 4 ans que nos familles attendent que nous puissions commencer à travailler. Vous imaginez des personnes qui étaient déjà des responsables, des cadres dans les institutions de la République et qui se retrouvent pratiquement en chômage pendant 4 ans. Et et dont la République a formé, parce que nous sommes formés selon les normes internationales, au point que le magistrat aujourd'hui de la Cour des comptes a le même niveau que le magistrat du monde, parce que nous avons été formés par le CRIFIAF, qui est pratiquement l'organe qui forme les magistrats de toute l'Afrique. Donc, raison pour laquelle nous avons dit, bon, puisque nous ne savons pas qu'est-ce qui bloque, essayons d'aller vers la présidence, posons les problèmes, pour que nous puissions voir si réellement on peut nous aider à résoudre ces problèmes.
Vous voulez être nommé pour travailler à la Cour des comptes, mais une Cour des comptes qui, visiblement, ne se fait pas sentir, la Cour des comptes de la RDC.
Bon, vous comprendrez qu'il y a beaucoup de problèmes dans notre institution. D'abord, pour l'instant, l'institution ne dispose que de, à part nous, les 51 qui venons d'arriver, l'institution ne dispose que d'une quinzaine de magistrats anciens qui, dont la majorité, doivent aller à la retraite. Et puis, le président de la Cour des comptes, en principe, pour qu'il soit fort, pour qu'il puisse vraiment faire bien son travail, doit être nommé par l'ordonnance présidentielle. Or, celui qui est là est un intérimaire et vous comprenez qu'une personne qui doit chercher la légalité dans les chefs de ceux qui gèrent, lui-même est illégal, vous comprenez.
C'est ce qui fait la faiblesse de la Cour des comptes aujourd'hui.
C'est difficile qu'il puisse donner le meilleur de lui-même parce qu'en réalité, si au moins on est confirmé dans ses responsabilités, c'est à ce moment-là qu'il va prendre tous les pouvoirs, il sera revêtu du pouvoir nécessaire pour pouvoir agir.
Et vous pensez que dès que vous êtes nommé, on pourra sentir la Cour des comptes, parce que maintenant on est pendant la session budgétaire au Parlement, on parlera de la reddition de comptes, on trouvera votre touche dans ce travail qui sera présenté par exemple au Parlement.
Vous savez, dans le cadre même de la mobilisation des recettes, hein, le contrôle est toujours nécessaire. Et les comptables publics, les receveurs des régies financières, sont des justiciables de la Cour des comptes. Vous vous imaginez, lorsque on doit nommer 51 personnes comme magistrat à la Cour des comptes, ça voudrait directement donner un signal fort à tout agent de l'État qui collecte les fonds, d'être conséquent par rapport à lui-même, parce que si il n'arrive pas à bien collecter les ressources de l'État, la Cour des comptes est derrière lui. Parce que notre travail, c'est de contrôler d'une manière générale et permanente les comptes de l'État en recettes et en dépenses. Donc, c'est un travail qui, en principe, dans d'autres pays, c'est un instrument qui permet même à l'agent de l'État d'être encadré pédagogiquement en matière de pratique de bonne manière pour canaliser les ressources de l'État au profit du Trésor.
Venons-en à votre mémo. Vous avez déposé un mémorandum au bureau du chef de l'État pour lui demander de s'impliquer. Mais qui devrait normalement répondre? Vous pensez que votre dossier bloque à quel niveau?
Bon, pour l'instant, nous savons seulement que c'est depuis le 14 juin que notre dossier a quitté le Parlement, parce que le Parlement a donné son avis, l'Assemblée nationale a donné son avis favorable le 13 juin, et le 14 juin déjà,
2016.
Oui, le dossier a été transmis au bureau du chef de l'État. Mais c'est à ce niveau-là que nous avons vu, 3 mois qui viennent de passer, il était nécessaire que nous puissions venir vers eux pour dire, est-ce qu'il y a un blocage dans le cadre de la nomination? Parce qu'en réalité, notre situation, c'est une régularisation administrative. Alors, nous ne comprenons pas pourquoi ça traîne, raison pour laquelle nous avons sollicité avoir nous avons lancé ces messages pour que vraiment ça puisse atteindre les chefs de l'État, pour que nous soyons réhabilités dans nos droits, et surtout nous puissions quitter cette vie de précarité que nous menons aujourd'hui. Parce que vous imaginez, un magistrat de la Cour des comptes a rang de haut magistrat de la Cour suprême de la justice. Et vous vous imaginez, 51 personnes qui ont été recrutées dans toutes les provinces. Et ils se retrouvent tous à Kinshasa dans des conditions déplorables. Certains n'ont même pas de résidence. Alors je crois que en voyant le chef de l'État, nous allons poser un certain nombre de problèmes se rapportant à notre condition sociale. Et je crois que c'est ça ce qui est plus important, parce que nous sommes des familles, nous sommes des chefs de famille, nous sommes des parents et nous avons plusieurs charges à supporter. Et dans cette condition que nous sommes, ça pose vraiment problème.
Nathalie Mbumba, merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci, monsieur.
Merci, Nathalie Mbumba, et c'est la fin de Panorama économique sur Radio Okapi. Merci de nous avoir suivis partout en RDC et sur www.radiookapi.net, où je vous convie de retrouver cette émission si vous nous avez pris en cours. Rendez-vous le lundi déjà dans Écho d'économie. Dieudonné Nyanga a été à la prise de son. Devant le micro, Daniel Tambinzoni. Je vous dis au revoir et très bonne suite de programme sur Radio Okapi.